Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Étude biblique sur le livre de l'Apocalypse. Deuxième partie, message aux sept églises.
Pour suivre notre étude sur le livre de l'Apocalypse, vous vous souvenez que notre premier rendez-vous, enfin en ce qui concerne cette étude, c'était au mois de septembre, c'était tout simplement, on avait fait une introduction et puis c'était la vision du Fils de l'Homme. Et dans ce second rendez-vous, eh bien, nous allons évoquer tout simplement eh bien, les lettres qui sont destinées aux églises de l'Apocalypse, aux églises des temps apostoliques. Alors, simplement pour cela, je ne vais pas relire deux chapitres entiers. Je vais simplement prendre quelques versets. Et ces versets, eh bien, ce sont les conclusions de chaque lettre. Et vous remarquerez une chose, c'est que ces conclusions mettent en évidence le fait de la victoire de Christ, donc de notre victoire à chacun, en tant que chrétien, comme croyant. Alors, simplement, vous avez certainement votre Bible devant vous, et je vais simplement rappeler eh bien, ces quelques versets qui vont nous situer, en gardant en mémoire que ces lettres eh bien, ont été donnés pour exhorter les chrétiens de tous les temps à être victorieux. On va commencer par le chapitre 2, donc chapitre 2, verset 7, la deuxième partie du verset 7, il est dit ceci, « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Au verset 11, il s'agit une autre missive, il est dit « Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Encore un peu plus loin, au verset 17, toujours de ce chapitre 2, dans la seconde partie, « À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. » Encore plus loin, verset 26, « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, il les pètera avec une verge de fer, comme on brise des vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin. » Nous arrivons maintenant au chapitre 3, verset 5. « Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Nous abordons le verset 12 du chapitre 3. « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Et une dernière lecture, verset 21. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. » J'ajoute ceci, c'est qu'à chaque fois, je ne l'ai pas lu, mais à chaque fois il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà. Donc, cela c'est pour situer, eh bien, notre, tout simplement introduire cette nouvelle étude. Nouvelle étude qui porte sur l'état et conditions des églises apostoliques, c'est-à-dire les églises eh bien, que du Nouveau Testament, les églises, l'Église primitive, et en perspective, historiquement, de ce qu'ont été, de ce que sont et seront, de ce qu'a été, de ce qu'est et sera l'Église de Jésus-Christ au travers 21 siècles de christianisme et au-delà, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Donc c'est intéressant de comprendre cela, parce que nous avons un regard, c'est en quelque sorte, un flash qui nous est donné à travers ce qu'a été l'Église, ce qu'elle est aujourd'hui, et le regard du Seigneur, puisqu'il nous est dit que c'est l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit du Seigneur qui nous enseigne. Donc, lui ne se trompe pas sur l'état de santé, sur ce qu'est finalement cette Église qu'il a sauvée. Pour rappeler quelque chose dont nous avons déjà parlé, il y a 7 communautés. Il y a l'Église d'Éphèse, qui figure, et je le rappelle, l'Église apostolique, c'est-à-dire les 2 premier, 2e et 3e siècles. Ensuite, l'Église de Smyrne, on en reparlera tout à l'heure, qui a été caractérisée pour être l'Église des martyrs, de ceux qui ont donné leur vie, pour l'amour de Jésus, la foi en Jésus-Christ, pour la proclamation de l'Évangile. Ensuite vient l'Église de Pergame, qui est en quelque sorte, et on en a parlé récemment dans un culte, l'Église d'État. C'est-à-dire que ce sont les hommes qui sont rentrés au pouvoir de cette Église. Jésus est le chef suprême, il est le souverain de l'Église. Mais on s'est aperçu qu'à une certaine époque, aux environs du 3e, 4e siècle, d'une manière tout à fait particulière, en quelque sorte, on a évacué l'autorité de Christ, de sa parole, pour y mettre l'autorité des hommes. Ce qui a amené à l'Église de Thyatire, qui est véritablement la figure de l'Église, ce que j'appellerais l'Église pontificale. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Une Église dont l'autorité n'est plus une autorité spirituelle, mais une autorité religieuse, en faisant bien le distinguo entre les deux termes que je viens de citer. L'Église de Sardes, maintenant, est la figure de cette Église qui est une Église de souffrance. Mais une Église de réveil, c'est l'Église de la Réformation qui a vu la diffusion de la Bible auprès de tous les peuples, de toutes les populations, enfin, pour ceux qui savaient lire naturellement, avec l'invention de l'imprimerie, avec la connaissance et le retour aux Écritures, à la véritable doctrine du salut par la foi, Luther, Calvin et puis tous les réformateurs, les protestants, les huguenots, enfin, le 15e, 16e, 17e siècle, mais qui, à la fin, est devenue une église très intellectualisée. Là, c'est véritablement non plus l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit de l'homme, sa sagesse, sa compréhension, qui a amené une église, finalement, très rationaliste. L'église de Philadelphie, c'est l'église missionnaire, l'église revivaliste, l'église des grands réveils, dont nous faisons partie, où il y a eu une prise de connaissance, prise de conscience, du baptême non plus des enfants, mais le baptême adulte, le baptême du Saint-Esprit, la Pentecôte, la nouvelle Pentecôte, un souffle de Dieu pour, dans les doctrines fondamentales enseignées par Jésus, la guérison divine, le baptême du Saint-Esprit, je vous l'ai dit, le retour de Jésus-Christ, dont le livre de l'Apocalypse est rempli, et d'autres grandes vérités comme cela. Donc ça, c'est l'Église de Philadelphie, l'Église missionnaire, qui a envoyé finalement des hommes dans le monde entier, non pas pour coloniser des nations, mais pour apporter le message de Jésus-Christ à des gens qui sont, et des peuples qui étaient dans les liens de l'idolâtrie, de l'occultisme, de la magie, à commencer par nous-mêmes. Et puis l'Église de Laodicée, c'est l'Église mondanisée, c'est notre temps, en quelque sorte. L'Église a toujours été, à un moment ou à un autre, mondanisée. Mais je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde l'état spirituel, la désaffection de la foi, l'antichristianisme de nos nations occidentales, dites chrétiennes, on se dit alors là, qu'est-ce qu'il reste? Alors, c'était un rappel. 7 églises, 7 messages et 7 promesses aux vainqueurs. C'est ça, en quelque sorte, ce que nous allons voir. Des promesses qui sont faites aux vainqueurs. Mais qui dit vainqueur, dit combat, dit lutte, dit résistance, dit opiniâtreté. Et tout ce qui va avec. Avec, naturellement, en couronnement, la victoire. Qui n'est pas la nôtre, mais celle de Christ. Et par Christ. Nous avons là, en quelque sorte, dans ces deux chapitres, un exposé réaliste pour chaque église avec ses lumières. Et vous constaterez que l'Esprit de Christ va donner des encouragements. On va les découvrir. Mais il y a également aussi ses ombres. Parce que l'Église reste, en quelque sorte, très humaine. L'Église n'est pas faite avec des anges. Elle est faite avec des hommes. Donc il y a des lumières, mais il y a aussi des ombres. Et là, c'est là où il intervient des blâmes du Seigneur. Mais les blâmes qui sont donnés ne sont pas pour perdre à jamais, pour condamner et envoyer en enfer. C'est pour un ressaisissement avec ce qui l'accompagne naturellement et automatiquement, c'est la repentance. Les blâmes sont faits pour instruire, pour faire prendre conscience. Et en ayant pris conscience, à ce moment-là, il y a un retour vers Dieu. Donc, lumière, ombre, encouragement, blâme, dont le désir du Seigneur, en parlant de cette manière, est de se former une épouse digne de lui. L'Église, c'est l'épouse. Jésus-Christ, c'est l'époux. On en a parlé la fois dernière, et de lui préparer son retour. Nous travaillons aujourd'hui à préparer, à attendre, à aspirer, à soupirer après le retour de Jésus-Christ, si nous croyons que Jésus encore revient. Ce qui n'est pas forcément évident dans, parfois, certaines familles de catégorie, dans la catégorie du christianisme. Il y a des gens qui ne croient plus du tout que Jésus revient. L'Esprit de Jésus cherche avant tout à raviver la flamme de la foi et de l'amour. Parce que l'amour tient une place très importante, car être vainqueur, être personnellement un vainqueur, c'est faire foi à la vérité. Pour combattre, parce que notre guerre, elle est contre le mensonge, elle est contre le menteur. Donc, être vainqueur, c'est faire foi à la vérité, et vaincre, c'est aimer. Parce que la force qui nous donne la victoire, c'est l'amour. Il n'y a pas d'autre chose que Jésus nous a enseigné. Et pour aimer, et je termine cette introduction, il faut se vaincre soi-même. C'est pas vaincre les autres, c'est se vaincre soi-même. Dans ce que nous avons d'humanité, de tout ce qu'il peut y avoir de faiblesse, mais quand on se vainc soi-même, on n'y arrive pas. Et nous avons besoin que celui qui est notre sauveur, qui nous a rachetés, marche devant nous. Et nous devons être pénétrés de cette pensée, qui est aussi un texte de l'Apocalypse, où il nous est dit que Jésus est parti en vainqueur et pour vaincre. Donc, tout tournera ce soir autour de l'image et de la perspective de la victoire. Alors maintenant, on va rentrer dans les textes. Je ne les ai pas lus complètement, vous pourrez les relire chez vous, mais je vais rappeler les textes, vous les connaissez, ils sont devant vos yeux, de toute manière, dans votre Bible. Cette application pratique où nous sommes exhortés à prendre des victoires. Et vous avez remarqué, par sept fois, il est dit à celui qui vaincra. La première victoire est une victoire sur la ou les fatigues, sur la lassitude et l'usure. Et vous allez comprendre qu'il s'agit de l'église d'Éphèse, la première, où nous avons à prendre position en recourant à la force de Dieu, à sa force toute-puissante, pour vaincre tout ce qui a tendance à nous anéantir et à nous mettre finalement hors jeu. Donc, victoire sur la fatigue morale, la fatigue spirituelle, la lassitude sur l'usure. Et Dieu dit, je connais tes œuvres à l'église d'Éphèse, je connais ton travail et ta persévérance. Ça, c'est un encouragement, une constatation. La caractéristique, c'est que l'église d'Éphèse, les chrétiens de l'église d'Éphèse, étaient des hommes qui étaient zélés pour l'évangile, pour le service fidèle du Seigneur, et ils étaient patients. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Ça, c'est véritablement ce que Dieu voit. Mais il y a une lacune. Dans la vie de cette communauté chrétienne, cette lacune est la suivante. « Mais, dit Dieu, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » En d'autres termes, tu t'es lassé, tu t'es refroidi. Et ça peut arriver. Hein. Et malheureusement, nous pourrions dire que nous sommes à même de le constater dans l'Église contemporaine, dans notre Église, où malheureusement, il y a, hélas, des frères et des sœurs, des chrétiens, qui ont laissé tomber, qui n'ont plus tellement compris l'intérêt d'un culte, l'intérêt d'une réunion de prière, l'intérêt de l'évangélisation, l'intérêt d'être là, l'intérêt de servir, l'intérêt de s'investir. Vous savez que, on le dit souvent le jour du baptême, vous engagez-vous à aimer Jésus de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, de le servir hein, tous les jours de votre vie. J'ai jamais entendu un non jusqu'ici. Tout le monde dit oui. Et on s'aperçoit qu'on en a fait des dizaines et des dizaines de baptêmes. Et quand on regarde derrière soi, on se dit, mais ils ont tous répondu oui au Seigneur. Et où sont-ils aujourd'hui? Parce qu'ils se sont lassés. C'est vrai qu'il y a eu des épreuves, c'est vrai qu'il y a des difficultés, c'est vrai qu'il y a des problèmes et toutes sortes de choses. Mais beaucoup, malheureusement, ont abandonné leur premier amour. Vous savez que les années qui passent tendent à émousser, à user notre ferveur. Ouais. Quand un nouveau converti arrive et découvre l'Évangile, il est tout feu, tout flamme et c'est formidable et ça fait du bien à tout le monde. Mais quelquefois, au bout d'un certain temps, après des années, 10, 20, 30, 40, 50 ans, oh là là, c'est plus difficile. Et tout cela, eh bien, le temps éteint le feu sacré. Et le danger, c'est une sorte de vieillissement spirituel. On parle beaucoup de vieillissement en ce moment. Hein. Il va falloir en faire un peu plus. Enfin, je ne veux pas remuer le couteau dans ma plaie. Mais le vieillissement spirituel, j'entends, qui amène à un relâchement, un déclin, où finalement on est blasé d'aimer le Seigneur. Et peut-être même blasé d'aimer les frères et les sœurs, d'aimer aussi les autres. Ça va ensemble, hein, de toute manière. Alors la victoire consiste à vaincre l'habitude et la lassitude, la routine qui rend le christianisme formaliste. Et on comprend que bien des églises se sont complètement, eh bien là, quelque part, arrêtées, elles ont été stoppées dans leur élan. Elles sont devenues des églises dans l'histoire. Et comme on le dit dans, à travers cette pensée, que finalement l'esprit est parti, mais les monuments restent. Mais la vie, elle n'est pas dans les monuments, elle est dans l'esprit. Qui anime la vie. Et on peut comprendre que beaucoup de familles appartenant au christianisme sont tombées dans le formalisme, la routine, parce que c'est plus facile, on n'a pas besoin de penser sa foi à ce moment-là, on le fait pour vous. Et qui dit vieillesse, dit l'approche de la mort. Victoire sur le temps, nécessité d'un renouvellement permanent pour rester jeune. On en fait hein, des choses pour rester jeune, hein, les lifting et puis le gym tonic et tout le reste. Hein. On fait des choses comme ça, hein, on veut rester jeune. À un moment donné, on a du mal aussi quand même, malgré ça. Hein. Ouais. Mais est-ce que l'on veut rester jeune spirituellement? Est-ce qu'on veut garder la fraîcheur du premier amour? Vous vous souvenez, quand vous êtes converti, le jour où vous avez vraiment découvert le Seigneur, mais c'est extraordinaire, c'est la plus belle de toutes les aventures. Mais bon, avec le temps, c'est vrai qu'on prend vite l'habitude. Hein. Parce que la jeunesse, c'est la joie. Ouais. La jeunesse, c'est la ferveur, c'est le dynamisme, c'est l'entrain. Et on comprend que quelquefois, nos églises se sont un petit peu assoupies parce que... Et on le voit dans le caractère même d'une église. Hein. Une église où on se bouscule pour prier. Une église où on se bouscule pour louer le Seigneur dans les cultes. Où on se bouscule pour faire des actions d'évangélisation. Même individuellement, on n'a pas à attendre que le pasteur le dise. Il y a tellement de choses à faire. Ça, c'est la jeunesse. Alors, dans cette église d'Éphèse, il est dit à celui qui vaincra, et qui saura, et je paraphrase, et qui saura conserver la fraîcheur du premier amour. Dieu dit, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est le symbole de la plénitude de la vie et du renouvellement intarissable. L'arbre de vie. L'arbre de vie, nous en est parlé dans la Genèse, c'est fermé. Et dans l'Apocalypse, où tout à nouveau, il est ouvert. Le début et la fin. Une autre victoire à prendre. C'est l'exemple de l'église de Smyrne. La caractéristique, c'est l'affliction et la pauvreté matérielle, et c'est une église persécutée. Et les chrétiens de l'église de Smyrne avaient besoin de prendre le dessus sur toutes ces choses terribles de la persécution. Nous, nous ne sommes pas persécutés. Mais je peux vous dire que dans les pays de l'islam, ou dans d'autres pays d'Amérique latine, je peux vous dire que les chrétiens, comme nous sommes, sont persécutés. Et c'est pas évident d'être chrétien. D'ailleurs, les réunions sont publiquement interdites, de toute manière. Alors, les chrétiens donc de Smyrne avaient besoin de prendre une victoire. Et Dieu dit, et vous remarquerez que là, il n'y a que des encouragements et aucun blâme pour cette église. « Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » La vie chrétienne consacrée n'est pas exemple de douleur et de peine. Quelquefois, il y a des chrétiens qui pensent que dès qu'ils sont un petit peu molestés, ils se disent « Ah ben, faut que je me taise. » Eh bien, quand on lit le Nouveau Testament et le Livre des Actes, plus les premiers chrétiens étaient persécutés, plus ils parlaient. Et ils ne reculaient pas devant le prix à payer. Vous savez, Jésus nous dit que celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui, devant mon Père et devant les anges. Et je crois que nous avons besoin, les uns et les autres, de reprendre du courage et de dire « je n'ai pas honte de l'Évangile », comme Paul l'écrit. Je n'ai pas honte de Jésus-Christ. Il y a des gens qui font des choses abominables et qui n'ont pas honte de ce qu'ils font. Alors nous qui, quand même, avons de bonnes raisons et avec des principes qui sont des principes de vie, des principes de paix, des principes qui sont une bénédiction pour les autres, est-ce que nous aurions honte? C'est curieux, hein? Curieux que nous ayons honte des choses qui sont dignes et qui sont les plus dignes qui existent dans ce monde. La victoire qu'il nous faut remporter consiste à triompher de la crainte de souffrir et de l'effroi qu'inspire la mort. Un chrétien n'a pas peur de la mort. Bon, on n'est que les hommes. Mais je veux dire que on sait où on va, à côté du reste du monde qui ne sait pas où il va. L'inconnu, l'épouvante de l'inconnu, eh bien, crée justement ce que nous connaissons chez eux. Mais pour un chrétien, ce n'est pas pareil. La crainte de souffrir, on n'aime pas souffrir, c'est humain, c'est naturel, et on le comprend. Mais il y en a un qui est capable de nous donner, finalement, de payer ce prix, et de pouvoir changer, finalement, eh bien, nos souffrances en joie, et de transformer, finalement, le mal en bien, et de ce qui nous semble une perte, eh bien, en salut. Et les chrétiens de Smyrne avaient besoin d'être encouragés. Notre force et dans la glorieuse espérance des cieux, et c'est ce qui fera écrire à Paul dans une de ses épîtres, il dira ceci, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera réservée pour nous. » Nous avons besoin d'être pénétrés de la connaissance de la parole de Dieu et de nous souvenir qu'être chrétien, c'est pas mettre notre drapeau derrière notre dos. Ce n'est pas attendre le retour du Seigneur en disant « voilà, moi je suis bien tranquille, je ne bouge pas, j'attends que ça passe ». Non, il y a quelquefois des nécessités où nous devons aller devant, où nous devons marcher, où nous devons eh bien, dire ce que nous savons, ce que nous croyons. Parce que quand bien même, eh bien, il y aura des obstacles, il y aura des contre-courants, une chose qui est certaine, c'est que ce que je souffre aujourd'hui n'a rien à être de comparaison avec ce qui m'attend éternellement de l'autre côté. Être prêt à donner joyeusement notre vie, dans nos forces, dans nos énergies, dans notre temps, pour celui qui est l'auteur de notre salut. Et Jésus nous le signale au passage, il dira « Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera, et celui qui cherchera à la sauver la perdra. » Est-ce que nous allons reculer devant la souffrance? Est-ce que réellement nous avons de grandes souffrances pour notre foi aujourd'hui? Dans un monde, une société qui nous a donné la liberté de conscience. On pourrait le comprendre du temps des protestants, des huguenots. Mais aujourd'hui, les premiers chrétiens qui étaient jetés aux bêtes dans les arènes des grandes villes de l'Empire, on pouvait comprendre. Mais nous, aujourd'hui, et ont joui d'une liberté, une grande liberté, et dans cette liberté, on n'a jamais été aussi timide. Et on craint. Alors à cette église, celui qui vaincra, le grand défi de la souffrance, la dissuasion de la persécution, la crainte des hommes, il nous est dit, si tu passes et si tu es victorieux sur tout cela, eh bien, celui qui passera cela ne souffrira pas la seconde mort. Il recevra en échange de sa vie terrestre et d'humiliation la vie éternelle. Le livre de l'Apocalypse termine sur ces mots où les larmes et les cris auront disparu et ce sera la grande consolation. On arrive à la troisième église, l'église de Pergame, où Dieu dit « Je sais où tu habites, je sais que là est le trône de Satan, là où Satan a sa demeure. » Cette église, où il y avait une poignée de chrétiens, était exposée à de grands combats, mais d'une nature particulière, par le fait même de son implantation dans une des régions des plus occultes et païennes qui soient. Pergame, on en a parlé dernièrement, était un haut lieu d'idolâtrie. Et il y avait un temple qui était le culte du serpent. Et on sait ce que ça veut dire pour, bibliquement parlant, le serpent. C'était un haut lieu de la médecine et de la pharmacopée. C'est pour ça, et je le rappelle au passage, que quand vous poussez la porte d'une pharmacie, vous avez le caducé sur la porte. Hein ? L'emblème. C'est une vieille histoire, tout ça. C'est une analogie à faire avec l'Église d'aujourd'hui, plongée dans un monde de plus en plus ténébreux et idolâtre. Vous savez, notre monde, hein, il n'est pas lumineux. Hein. Moralement, spirituellement, puis dans bien d'autres domaines. Et nous voyons que les chrétiens avaient besoin de prendre la victoire sur tout le contexte pollué, occulte, cette intoxication spirituelle à travers des fausses doctrines, à travers des philosophies, à travers des théologies tordues, on peut dire théologies tordues, des détournements de la parole de Dieu, toutes sortes de choses semblables, et qui produisait une asphyxie morale et spirituelle, dont le grand instigateur s'appelle Satan. On l'a lu. Là où Satan a sa demeure. Et vous savez, lui continue à faire toujours ses œuvres. Ses œuvres de ruine, ses œuvres de corruption, ses œuvres de dénaturation. Parce qu'il est appelé le prince de ce monde. Alors pour les gens qui habitaient Pergame, les chrétiens qui habitaient Pergame, la victoire consistait pour tous les croyants, pour ces croyants-là, pour nous également, à discerner ce qui est pur de ce qui est souillé, ce qui vient du diable et ce qui vient de Dieu, dans une séparation avec l'environnement derrière lequel se cache, sous des aspects lumineux, séducteurs, séduisants, la puissance des ténèbres. Écoutez ce que nous dit Paul dans 2 Corinthiens, au verset 6 et 7. Il est dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. » Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et vous connaissez la suite, hein ? Éphésiens chapitre 6. Donc la victoire, elle consiste à avoir du discernement. Et nous vivons dans un monde où ça devient irrespirable, sur le plan moral, sur le plan spirituel, avec tout ce que nous pouvons peut-être appeler innovation. Mais il n'y a pas d'innovation. Vous savez, les tactiques, les artifices, les séductions de l'ennemi, hier, ils ressortent ces tiroirs, hein, faut pas se faire d'illusions. La différence, c'est que les générations passent, elles disparaissent, et elles ne se passent pas les leçons de l'histoire. Et nous reproduisons les mêmes choses, nous tombons dans les mêmes pièges. Le diable n'est pas très inventif, faut pas se faire d'illusions. Les peuples ou les hommes qu'il a séduits il y a des siècles et des siècles, ils ressortent la même chose, mais en se servant des modes d'aujourd'hui. En se servant de la modernité d'aujourd'hui, naturellement. Quatrième victoire à prendre correspond à l'église de Thyatire. C'est un autre exemple où la victoire s'impose. Et ça commence par une louange. Dieu dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Il s'agit là d'une église prospère et florissante. Dieu regarde et il voit cette église dans ces conditions. C'est un encouragement. Et vous avez vu, l'amour, la foi, la fidélité, la constance, des œuvres qui sont encore plus nombreuses que les premières. C'est quelque chose de formidable, mais il y a un blâme. Le blâme apparaît au verset 20, où Dieu dira, l'Esprit de Jésus dira, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. » Qui se dit ? Écoutez bien. Elle n'est pas, mais elle se dit, prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour les conduire à la débauche. Il ne s'agit pas naturellement d'une débauche physique, peut-être, mais avant tout d'une débauche morale et spirituelle. Spirituelle. Ce reproche fait aux chrétiens de cette église a pour objet une certaine complaisance et inclination aux faux enseignements et aux doctrines pernicieuses. Quand on jette un coup d'œil sur l'histoire du christianisme, on se dit, mais qu'est-ce que les hommes ont fait de la parole de Jésus ? Qu'est-ce qu'ils ont fait de la grande doctrine de la grâce ? Qu'est-ce qu'ils ont fait de la doctrine de l'amour ? Qu'est-ce qu'ils ont fait de la doctrine du pardon, surtout ? Et on y a substitué toutes sortes de choses qui, finalement, eh bien, est le produit de l'intelligence, de la cogitation, de la philosophie, des déductions, des raisonnements, de l'intellectualisme humain. Et là, c'était véritablement la victoire que cette Église devait prendre parce qu'elle s'était laissée infiltrer par toutes sortes de marées noires, en passant par l'intellect, par le sentiment, par l'émotion, par la faiblesse, par toutes sortes de choses. Sous l'image, parce que c'est symbolique, l'histoire de Jézabel, la prophétesse. Vous connaissez Jézabel dans l'Ancien Testament, la reine mariée à Achab, du temps d'Élie. On connaît l'histoire. Et là, elle est prise en type, en quelque sorte, pour montrer ce qu'il peut y avoir de pernicieux, le mélange de la vérité avec l'erreur, de la lumière avec les ténèbres. Cette subtilité qu'il peut y avoir, si on n'y regarde pas de près, eh bien, on n'y voit rien. Et on se dit, bravo, c'est ça. Alors qu'il y a de l'ivraie parmi le bon grain. Vous connaissez la parabole de Jésus. L'ivraie qui est semée de nuit par, finalement, eh bien là, les serviteurs de l'autre, qui vient subtilement. Et il se dit, voilà, ça ne se voit pas, mais c'est mélangé. Et quand le maître de la moisson dit à ses ouvriers, allez maintenant, allez faire la moisson, ils vont venir stupéfaits en disant, attention, il y a du poison. Alors ils sont prêts à tout détruire, à tout casser. Il leur dit, non, vous laissez ça ensemble, ça va croître ensemble, mais un jour, il y aura bien un changement qui se produira. Il y aura d'un côté le tri entre le bon grain et l'ivraie. C'est une bonne leçon pour nous, hein. De ne pas vouloir combattre le mal avec nos propres forces et humainement parlant. Ça, c'est l'histoire de Dieu. C'est l'affaire de Dieu. C'est pas la nôtre. Mais néanmoins, la chose qui nous concerne, c'est de faire attention de rester vraiment sur la vérité. La vérité non pas d'un homme, pas la vérité d'un mouvement, pas la vérité d'un pasteur ou d'un prophète ou de quelqu'un qui serait inspiré, la vérité de Jésus-Christ. Ça, c'est la différence. Alors, ce reproche a pour objet donc une certaine complaisance, je l'ai dit il y a un instant, aux faux enseignements et aux doctrines pernicieuses. Nous sommes dans un siècle où nombreuses sont les déviations doctrinales qui engendrent une foule de sectes. Parce que le but de l'adversaire, c'est faire d'une église une secte. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est de faire d'une église une secte. Alors il y en a des grandes sectes, hein. Je ne les citerai pas. Mais il y en a des grandes sectes qui ne se disent pas sectes et qui pourtant ont plus rien à voir. Elles sont séparées de la vie de l'esprit. Elles sont séparées de celui qu'elles se réclament simplement par la citation de son nom. Mais elles n'ont rien à faire. Et Jésus n'a rien à faire avec elles. Et Dieu dira à l'église de Thyatire, tu laisses faire. C'est une forme de laisser aller. Ouais. On est prêt à tout entendre. On est prêt à tout accepter. On n'a même plus de jugement personnel. On n'a même plus de discernement. Se dire, bah oui, bah il parle bien, il est... Parce que ça vient comme ça, hein. C'est à travers les prédications ou à travers les témoignages, toutes sortes de choses. Ouais, c'est ça. Mais vous savez, hein, c'est pas de bien parler. C'est pas d'avoir un talent oratoire, hein, ou d'avoir de la rhétorique ou de l'avoir appris. C'est pas ça. Hein. Ce qui est important et ce qui donne de la valeur, c'est que nous restions véritablement en conformité avec ce que Dieu nous dit. Au mieux bafouiller comme Paul ou comme Moïse et rester dans la vérité. Ne vous laissez pas intimider ou impressionner par les gens qui parlent bien. D'ailleurs, le monde, il y a bien longtemps, qu'il a discerné et qui sait faire la différence avec les bonimenteurs, hein, sur le plan commercial, sur le plan économique et tout ça, on les voit venir. Hein. Vous savez, le gars qui vient avec un aspirateur et tout ça, il dit oh, ça ne va pas vous coûter cher et tout ça. Vous vous retrouvez avec je ne sais pas quoi, je sais pas quoi. Eh bien, c'est pareil. Hein. C'est pareil, ça se voit dans le monde des affaires, ça se voit dans les choses indifférentes de la vie. Mais ça se voit aussi dans l'Église. Des gens qui parlent bien, parce que regardez, des gens qui parlent bien, il y en a eu des fameux. Hein. Vous savez, le petit monsieur là, qui avait les moustaches et puis la mèche là de ce côté-là. Hein. Ben, faut le faire hein, pour entraîner un peuple et la moitié du monde derrière lui. Hein. Dans le sang. Dans le feu, dans l'enfer. Non, 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 faut pas exagérer. Non, ça c'est pas. Non, non. Non, non. Tu laisses faire. Parce qu'elle séduit et enseigne. Et l'avertissement nous est donné dans 2 Timothée 4, 3. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Quelquefois, on a la triste surprise de voir des chrétiens, et parfois des chrétiens de longue date, partir dans un moment donné après avoir été très stable, très fidèle, consacré, et voir partir dans toutes sortes de nouveautés. Et ils ne supportent plus la saine doctrine. Et ils se donnent une foule de docteurs, ils sont prêts à courir. Moi, je l'ai vu malheureusement hein, dans mon ministère, des gens qui étaient très bien, des frères, des sœurs que nous aimions beaucoup. Il a suffi qu'un faux prophète passe par là. Paf ! Les emmenait, mais alors... Et ça s'est souvent très mal terminé. Hein. On se demande quelle mouche les a piqués. Hein. Franchement. Hein. Oui, parce que dans leur cœur, il y a quelque chose qui ne va plus. Ils ont été séduits, ils ont été emportés. La nouveauté, le changement, l'innovation. Alors, il faut faire attention à ça. Parce que si vous voulez du changement, laissez le Seigneur changer les choses. Lui, il va vous donner du changement, parce qu'il est capable de faire du vrai changement. Hein. Il est capable de faire des bouleversements, des révolutions. Ça, c'est sûr. Mais si on essaie de le faire soi-même, vous savez, on a passé une période où on voyait le réveil de tous les côtés, on essayait de faire le réveil, on essayait de produire le réveil. On a vu comment ça s'est réveillé, hein. Vous dire que l'horloge est complètement détraquée. Hein. Et ça ne venait pas du Seigneur. À celui qui vaincra, et je dis entre guillemets, les esprits séducteurs et les esprits d'erreur, qui restera enraciné sur la parole, Dieu dit, je donnerai autorité sur les nations et je lui donnerai l'étoile du matin. C'est l'image de l'aurore et de la lumière. L'image de ce jour, l'image du jour, l'image de la lumière et d'un jour nouveau, l'aurore. C'est le petit matin naturel. Cinquième, l'église de Sardes, dont les traits caractéristiques, c'est l'abondance matérielle, c'est la richesse et le luxe. Et il y a une constatation, Dieu dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Mais je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Ouais. Ce n'est qu'une apparence. Ce n'est qu'une image que tu te donnes. Mais tu es mort. Quelle ressemblance avec notre christianisme en général, dans nos pays occidentaux. L'apparence, avec des cérémonies, avec des rites, avec des traditions. Là, on va bientôt rentrer dans encore une fête religieuse, etc., etc. L'apparence. Mais est-ce que c'est biblique ? Les apparences, mais un vide intérieur, un gouffre, on pourrait dire. Il n'y a rien de pire que l'assoupissement spirituel qui conduit à une fausse sécurité spirituelle, une fausse sécurité charnelle, parce qu'il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de persécution, il n'y a plus de prédateurs, entre guillemets. On est bercé dans un confort matériel, on tombe dans l'insouciance et on est enveloppé dans le conformisme mondain parce qu'on a peur d'être des gens différents. Eh bien, heureusement que nous sommes différents. On n'a pas besoin de le provoquer. On n'a pas besoin de le mettre sous le nez des gens en disant « je suis différent, vous ne le voyez pas ». C'est pas ça, hein. Mais, quelquefois, il faut prendre position avec douceur pour tous ceux qui nous demandent raison de notre foi. Ouais. Attention aux conformistes. Vous connaissez l'histoire de Rabelais, hein, les moutons de Panurge. Hein. Ils ont tous été dans la rivière. On ne suit pas n'importe qui. Parce que ça correspond à l'image que nous avions précédemment. Il y a un besoin d'un grand réveil. Il faut que ce soit le réveil de Dieu. Et c'est Jésus qui nous dit ça dans l'évangile de Luc, qui nous dit « Mais prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne se pesantissent par les excès du boire et du manger. » Et qu'à un moment donné, eh bien, nous soyons emportés par finalement les séductions de ceci et cela, ou la crainte de peur de manquer, peur de ceci. Mais notre vie, notre monde aujourd'hui palpite dans la peur, dans l'incertitude du lendemain. Parce que finalement, le Dieu qui régit notre monde, c'est l'argent. Hein. Mais il est toujours là, l'argent. Hein. Et il fait danser. Il fait marcher les gens. Il les fait courir. Il les aveugle. Il les rend ivres. Hein. Il les rend fous. Alors attention pour les chrétiens. Alors si nous vainquons cela, il est donné cette promesse à celui qui vaincra. Celui qui vaincra les pièges du monde matérialiste, qui en usera sans y attacher son cœur. Mais il faut être équilibré dans la vie chrétienne. Hein. On a besoin d'un travail, on a besoin d'argent, on a besoin d'une maison, on a besoin de ceci et cela. Mais il faut savoir si véritablement toutes ces choses, ça devient notre idole ou notre Dieu, ou nous en usons pour bénir le Seigneur. Nous pouvons avoir beaucoup de choses. Abraham était très riche. David était un homme très riche. Mais néanmoins, ils sont quand même restés attachés à Dieu. Salomon, c'était un peu différent. Hein. Lui, ça lui a tourné la tête. Hein. Alors, il y a cette bénédiction que nous avons dans la Bible, que nous avons dans le livre des psaumes, il est dit ceci, « Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel nous bénisse, chacun d'entre nous. » Mais il est ajouté quelque chose. « Que l'Éternel te bénisse, mais qu'il te garde dans la bénédiction. » Parce que là, on peut l'oublier. Hein. « Seigneur, tu m'as tellement béni, j'ai même plus besoin de toi. Tu m'as béni en ceci, tu m'as donné cela, etc. Mais j'ai même plus besoin de toi. » Alors, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel nous bénisse et vous bénisse, mais qu'il nous garde. Et qu'il vous garde. Parce qu'on peut perdre la tête. Il ne faut pas que notre réussite soit notre faillite. Avant-dernière, l'église de Philadelphie. La particularité de cette église, c'est une église qui est faible. Comme Smyrne, il n'y a pas de reproche. C'est une église faible, mais c'est une église fidèle. Ça nous parle. Nous qui, quelquefois, voulons être forts. Fort pour quoi faire ? Parce que quand on est faible, on a besoin de Dieu. Quand on est fort, on se passe de lui. Et le verset 10 et 11, il est dit ceci, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as. » Et c'est véritablement là où nous avons besoin de la grâce de Dieu, de retenir ce que nous avons reçu. À la fidélité répond la fidélité. Dieu est fidèle, je lui suis fidèle. Et parce que je lui suis fidèle, il me sera fidèle dans mes besoins. Il ne va pas me trahir. Et c'est une promesse de protection. Je te garderai. Vous savez, on a vraiment besoin d'être gardé par le Seigneur. On a besoin de la prière des uns et des autres pour être gardés, les uns et les autres. On a besoin de prier les uns pour les autres. Mais on a besoin avant tout d'être gardé par le Seigneur. Moi, je le dis pour moi-même, hein, j'ai pas peur de le dire, mais quelquefois, combien nous sommes faibles, combien nous pouvons être emportés comme un fétu de paille d'un moment à un autre. Je connais mes faiblesses, hein. Enfin, j'ai connu, je crois. Et je le dis, et j'en suis tout à fait conscient, je me dis, mais Seigneur, hein, vraiment j'ai besoin d'être gardé. Je ne veux pas jouer au fort, hein, ou au téméraire, parce que, vous savez, hein, on n'est pas plus que les autres. Hein. Et Jésus nous dit, je viens bientôt. Alors ça me donne de l'espérance en disant, viens vite, parce que je voudrais aller jusqu'au bout. Hein. Alors que la tentation est grande d'oublier cette vérité fondamentale du retour de Jésus-Christ. Déjà 2000 ans d'attente. Les Juifs avaient déjà oublié leur Messie quand Jésus-Christ a fait son apparition. Et pourtant, tout l'Ancien Testament est plein de la venue du Messie pour les Juifs. Et quand il est venu, ils l'avaient déjà oublié. Est-ce que l'Église va oublier son Sauveur après 2000 ans de christianisme? Et moi, je me le demande. Hein. Est-ce que les Églises de réveil dont nous appartenons, dont nous sommes, les Églises charismatiques, est-ce que nous allons oublier cette grande vérité du retour de Jésus-Christ? Ne l'oublions pas, parce que c'est peut-être justement le signe par rapport à cette tendance à l'oublier qu'il revient bientôt. Vous savez, c'est souvent comme ça. Quand on a attendu, à un moment donné, on finit par plus y croire. Tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Est-ce que nous l'attendons toujours avec la même ferveur? Est-ce que nous considérons son retour avec tout ce qu'il comporte de préparation pour chacun d'entre nous? De travail d'évangélisation? De régénération? Transformation de notre caractère? Sanctification et autre chose? C'est ce qu'il fera dire à Jésus dans Luc chapitre 17. « Lorsque je reviendrai, trouverai-je encore de la foi sur la terre ?» La question, elle est là. Alors à l'église de Thyatire, de Philadelphie, pardon, il est dit à celui qui vaincra, le chrétien qui vaincra patiemment, sans renoncer, sans douter de cette glorieuse espérance, alors je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Une colonne, c'est quoi? C'est solide et ça tient l'ensemble. Et nous faisons partie du corps de Christ et il veut que nous soyons solides. Que nous nous tenions et que nous tenions aussi les autres. Une colonne. C'est le symbole de la fermeté à toute épreuve. Et je termine par l'église de Laodicée. On est dans les temps. Dieu dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. C'est un avertissement. Gardons-nous de tomber dans un état de suffisance qui nous fait croire, ou qui nous ferait croire que nous sommes arrivés et que nous n'avons plus besoin de rien. Les chrétiens qui disent « Je sais, je connais ma Bible, vous savez, j'ai plus rien à apprendre. Je ne viens plus aux réunions parce que le pasteur, il répète toujours la même chose. Et puis, finalement, cela, je le sais. Il y a un danger quelque part. C'est vrai, quelquefois, le pasteur peut quelquefois répéter les choses. Vous me le dites. Mais, toujours est-il que quand on en arrive à dire, eh bien, moi, je suis content. Je suis, vous avez remarqué, je suis quand même parmi tout le monde. Quand même l'homme le plus spirituel. Ah ouais. Vous rendez compte, les expériences que j'ai faites et la connaissance de la parole, je peux lire la Bible à l'endroit, à l'envers. Hein. Aucun problème. Je suis vraiment le nec plus ultra. Alors, faire attention, parce que ça, c'était le problème de l'Église de la Odyssée. Quelle tristesse de ne plus éprouver le besoin de Dieu dans notre vie. Tant que j'aurai faim et tant que j'aurai soif de Dieu. Comme il est dit, comme Idobiche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme a besoin de toi, Seigneur. Alors à ce moment-là, il y a encore de l'espoir. Tant que j'aurai besoin de prier, tant que j'aurai besoin de me retrouver dans la communion avec le Seigneur, de vivre de sa vie, alors à ce moment-là, c'est bon signe. Et je dis que c'est un état très grave de présomption, d'orgueil spirituel qui aveugle notre vision intérieure c'est la cataracte. Et la cataracte, si elle n'est pas soignée, c'est la cécité naturelle. La victoire consiste à ne pas regarder à nous-mêmes, mais d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Dixit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, les yeux fixés sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Vous me permettrez de rappeler que dans une parabole de Jésus, il y en a 5 vierges qui sont folles et 5 qui sont sages. Elles ont toutes les 10 une lampe. Mais il y en a 5 qui ont de l'huile et 5 qui n'ont pas d'huile. Elles ont la lampe, mais sans huile. Avoir une lampe sans huile, ça ne sert à rien. Alors, je dis bien qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Et pour l'Église que nous sommes, nous avons besoin de prier pour nos frères et nos sœurs, peut-être qu'ils sont partis en arrière. Et il ne faut pas oublier de prier pour eux. Parce que l'histoire du fils prodigue ou de la fille prodigue, ça existe. Et ça existe dans nos églises. Et il ne faut pas se décourager, il faut continuer. Alors, il n'est jamais trop tard pour se repentir, parce que Dieu est avant tout un Dieu de grâce et de miséricorde. Moi, je ne crois pas que Dieu soit légaliste. Excusez-moi, je dis ça comme ça, mais je ne crois pas qu'il soit légaliste. Parce que le légalisme de l'Ancien Testament, c'était une préparation pour arriver à l'autre dimension supérieure de la grâce. On ne fait plus les choses par contrainte, par peur, en courbant le dos en disant « qu'est-ce qui va m'arriver si je ne fais pas ceci, si je ne fais pas ça ?» C'est que maintenant, la dispensation nouvelle dans le Nouveau Testament, c'est que si nous obéissons au Seigneur, nous le faisons par amour et par plaisir. Ça change tout. On n'est plus un peuple d'esclaves. On est un peuple de fils et de filles qui ont été libérés. Alors, je crois que nous avons besoin de prendre garde à ne plus vouloir entendre la voix de celui qui parle et de fermer la porte, car nous ne manquerons pas de sombrer dans l'orgueil, dans l'aveuglement et dans le dessèchement sans nous en rendre compte. C'est pourquoi il est dit « je frappe à la porte et je frappe ». Si quelqu'un m'ouvre, eh bien je rentre. Il y a toujours une possibilité, c'est la grâce de Dieu. À celui qui vaincra et qui saura rester dépendant de Dieu en toutes choses, voilà la promesse. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, vous rendez compte? Ce ne sera plus les chaises en plastique. Enfin, j'y pense comme ça parce que je vous vois, mais je vois les chaises. Ça sera un trône. Et dedans, il y en a beaucoup sur Terre qui voudraient monter sur un trône. Merci Seigneur, confort, tranquille. Mais c'est l'image du repos quand on est assis. C'est une image de gloire, un trône, ça naturellement. Ça ne sera pas la nôtre, ça sera la sienne. Alors, à celui qui vaincra et qui saura rester donc dépendant, eh bien, il s'assiera sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Ça, c'est le prix de la vocation céleste. Et je termine, je fais un rappel. La première lettre, premier message, c'est la victoire sur le vieillissement, c'est Éphèse. La deuxième victoire, c'est la victoire sur la souffrance. Support de la souffrance, c'est Smyrne. La troisième victoire, c'est la victoire sur les puissances occultes, c'est Pergame. Quatrième victoire, c'est sur les fausses doctrines, Thyatire. Cinquième victoire, c'est sur l'assoupissement spirituel, c'est Sardes. Et nous avons besoin de conserver sans faillir l'espérance du retour de Jésus, c'est Philadelphie. Et de rester dépendant de Dieu seul, c'est Laodicée. Et je termine par un éloge. C'est l'éloge que Dieu fait à Jacob. Dans le combat, dans le terrain de Jacob, Dieu dira à Jacob, parce qu'il a lutté. Vous connaissez l'histoire. Chapitre 32, Genèse, vous le relirez. Dieu lui a dit, tu as été vainqueur. Et Dieu veut nous dire à chacun, tu es un vainqueur. Tu as la possibilité d'être un vainqueur. Est-ce que tu veux être un vainqueur? Est-ce que tu veux véritablement, t'asseoir sur mon trône? Ou tout simplement, ça a été dit à Jacob, mais avec Paul, nous pouvons dire. Et ça, c'était les derniers moments de la vie de Paul. Et je peux vous dire que Paul, il en a vu de 36 façons. Il a vu 36 chandelles. On peut permettez-moi de le dire, mais c'était une vie de souffrance, Paul. Et il écrira ceci: « Le moment de mon départ approche, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » Or, garder la foi, c'est être un vainqueur, mais être un vainqueur, un vrai vainqueur, avec Dieu. Alors que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu nous donne sa grâce. Nous allons simplement terminer. Je demanderai à Claude de bien vouloir terminer ce moment dans la prière. Et puis la fois prochaine, eh bien, nous passerons à un autre sujet. Et peut-être un sujet qui sera peut-être plus difficile. Hein, et un texte que nous n'avons pas sûrement l'habitude de nous arrêter, c'est le chapitre 4 et le chapitre 5. Ça sera le trône de Dieu, justement.